Nala et les vêtements. Je viens d'un pays magnifique, ruiné par une guerre qui a duré 30 ans. J'en avais 16 lorsque toute ma famille a péri dans l'effondrement de notre maison. La nouvelle bibliothécaire de la ville de Boulboul cherchait une aide et j'avais été choisie. J'ai parcouru 200 kilomètres à pied sous le croisement des tirs de factions ennemies pour me présenter au travail. J'ai franchi des montagnes et parcouru les vallées profondes jusqu'à Boulboul. Je connaissais très bien les raccourcis, car mon père était porteur de colis. Enfant, je le suivais partout. Après 3 jours de marche, j'étais couverte d'une poudre grise, à peine discernable de celle du pelage du chien qui me suivait depuis ma chute dans une crevasse. C'est grâce au chien que j'ai passé la zone des bombardements. Le fonctionnaire du poste de contrôle venait de trouver le message caché dans la doublure de son collier. Il signalait la présence de combattants amis dans la région que je venais de traverser. Au bénéfice de cette nouvelle réjouissante, j'obtins un laissez-passer. Il ne restait de ce qui avait été la plus grande bibliothèque des montagnes du nord d'Asie occidentale que des ruines fumantes, une montagne de gravats, de briques et de papier calciné. Le bâtiment avait été soufflé par un missile errant. Seul un porche orné de motifs en lapis-lazuli, représentant un abricotier en fleurs, et un escalier en pierre surplombant le vide de ses 18 mètres, était resté debout. Alors que moi, je chancelais devant la ruine de mon avenir, des fumerolles vertes s'élevaient des monticules de gravats qui s'éboulaient par intermittence. Une odeur de barbaque pourrissante et de composés soufrés rendait très pénible le fait même de respirer. Le chien se mit à grogner, puis s'enfuit. Je m'éloignai dans la poussière brune et âcre et cherchai un endroit public qui soit encore debout dans la rue qui semblait avoir été grignotée par un dinosaure. Une boutique rutilante de barbier, en parfait état de fonctionnement, avec une guirlande de fanions rouges et verts qui voltait dans le contre-jour chargé de moustiques, enfermait tout ce qu'il y avait de vivant dans le coin. Le barbier et l'apprenti s'affairaient autour de la barbe du seul client, abandonné dans le fauteuil. Le sol était jonché de poils sombres. Les têtes se tournèrent vers moi à l'unisson. Je m'approchai malgré l'incrédulité de leur expression. Je vis mon image dans le grand miroir. Ma peau, mes paupières et mes vêtements étaient recouverts de poussière et de crasse. J'avais la tête rasée pour éviter les poux et la vermine. J'avais perdu mon voile pendant la tempête. Heureusement, je parlais leur langue. Lorsqu'ils entendirent ma voix, ils se levèrent d'un bond menaçant. J'étais une femme, je devais disparaître immédiatement sous peine d'un châtiment extrême. C'était la loi. Je l'avais doublement enfreinte en entrant dans un lieu public à tête découverte. Le barbier fit miroiter la lame du rasoir et je sortis en courant de la boutique. Je fus sauvée par la nuit tombante. Je retournai près des décombres de la bibliothèque. Je m'installai dans un cratère encore tiède, sous l'escalier, où je finis par m'endormir. Au lever du soleil, un triporteur rouge flamme stoppa devant la ruine. Un attroupement surgit d'on ne sait où, braillait autour de la cabine. Je compris qu'il s'agissait d'embauches pour fouiller les décombres. Je réussis, malgré les coups et les morsures, à parvenir jusqu'à l'homme souriant qui se tenait dans son habitacle. Je pouvais aider à récupérer les briques réutilisables en contrepartie d'un repas composé de riz, de thé, de galettes et d'huile. Ma tête rasée et mes allures de jeune garçon imberbe me sauvèrent. Nous étions nombreux, je parlais très peu pour ne pas me compromettre. sous les décombres, les livres continuaient de se consumer en dégageant des fumerolles teintées des couleurs de l'arc-en-ciel. J'imaginais que c'était les meilleures pages qui envoyaient un dernier message de perfection. Parfois, ça sentait le cheval boucané, bien qu'on m'ait assuré qu'il n'y avait personne dans le bâtiment lorsqu'il s'était écroulé. À l'inconfort de ma situation s'ajoutait la peine pour le trésor détruit. Nous étions nombreux à creuser, des hommes de tous âges, dont certains étaient des pillards. On m'appelait Amine. La nuit, je dormais sur place, dans une niche aménagée sous l'escalier dont j'avais dissimulé l'entrée avec une planche. J'étais dans un état d'hygiène lamentable. Pas de savon, la plante des pieds éclatée comme une figue mûre, la peau des mains s'effeuillant sur une chair vive infectée. Je sentais tellement mauvais qu'aucun chien ne m'aurait prise pour un humain. Me baigner, habiller à la rivière était à chaque fois un tour de force. Il était hors de question de revenir au point de départ, de parcourir à nouveau un col enneigé en pleine zone de combat. Après une semaine, je me fis un ami. On travaillait et on mangeait côte à côte. Il s'appelait Hani, c'est tout ce que je savais. Un jour, je trouvai une main d'enfant. Je me mis aussitôt à pleurer. La main, verdâtre et rigide, serrait un objet. Annie m'ordonna de cacher ma peine à la vue des autres. Il cassa les doigts pour arracher l'objet qu'il mit dans une bourse en tissu, dissimulée par les plis de la ceinture. À la pause, il ne toucha pas sa ration et m'offrit sa galette. Le lendemain, je fus réveillée par des vociférations et par les cris de mon jeune ami, poursuivi par des hommes qui le frappaient avec des bâtons. D'autres lui barraient la route et lui lançaient des pierres. Lorsqu'il fut à terre, assommé, ils lui arrachèrent les vêtements. Alors je vis que Hani était une femme. La foule poussa des cris sauvages. De l'impact des pierres sur son corps jaillissaient d'innombrables flammèches de sang, comme les comètes combattantes. Puis les hommes traînèrent la femme jusqu'à la fosse septique, où elle fut noyée dans les excréments. En dépit de mon état de choc, j'eus le réflexe de dérober la bourse de tissu et de l'enfouir avant que les vêtements ne soient jetés avec le corps sur le bûcher, où il fut rôti et déchiqueté avec des peignes de fer. À l'odeur infecte de chair carbonisée se mêlaient les volutes pimentées des fumerolles multicolores. Je repris le travail sous les regards des autres. Je me sentais en grand danger. La récupération des briques s'achevait. Qu'allais-je devenir? Dans la bourse, j'avais trouvé du raisin sec, une bague avec un prénom gravé à l'intérieur, Olivier, une tresse de cheveux noirs et une feuille de papier pliée en quatre sur laquelle était écrit « Ville verte, convoi Red Cross, numéro 13, départ 14 mai à 14h, en face du centre de déminage. » Par une nuit sans lune, je pris un raccourci que je connaissais par cœur pour Ville verte. 30 kilomètres de sentiers minéraux, les pieds infectés par les abcès, avec la peur d'une mauvaise rencontre ou de sauter sur une mine. J'arrivais à l'heure où des centaines de personnes assiégeaient le Red Cross numéro 13 devant la ruine de ce qu'avait été le centre de déminage. Je pris place dans la file des blessés. Lorsque ce fut mon tour et que le médecin m'aida à m'allonger sur la table, je vis qu'il portait la même bague que celle que j'avais trouvée dans la bourse. Alors je lui demandai s'il s'appelait Olivier. Ses mains tremblaient lorsque je lui ai remis la bourse. Je lui racontai tout en sanglotant. Il me montra le nom gravé dans sa bague, Niloufar. Il était bouleversé. Il l'attendait. Il avait obtenu un passeport pour Niloufar. Il allait rentrer dans son pays avec elle. Il me proposa de partir à sa place. J'ai accepté. L'avion dans lequel nous prîmes place fut pris en chasse et détourné. Grâce à Olivier, je fus recueillie et soignée dans un centre pour orphelins, dans un pays voisin, où j'ai pu faire des études en attendant la fin de la guerre. Maintenant, je suis bibliothécaire à Villeverte, dit Nahala. Le récit de Paula, les manteaux. J'ai grandi dans un camp de réfugiés. Grandir, ce n'est pas le mot. Nous étions une quarantaine d'enfants abrités dans des bâtisses en bois, des nids à courant d'air. Les carreaux cassés étaient réparés avec des pièces découpées dans des couvertures brunes. Tout autour, c'était un grand pierrier dans un endroit désertique balayé par le vent, une tramontane qui soulevait une poussière blanche de sable qui nous coupait le souffle. Il y avait des adultes aussi, et du personnel qui nous soignait. L'hiver, on mourait de froid en allant aux toilettes qui se trouvaient sur un terre-plein entourant les baraquements. Alors on pissait et déféquait sur soi. Nous n'avions ni couche ni culotte. Des grillages entouraient le camp qui jouxtait un aéroport militaire. On devinait la mer par-dessus les étangs. J'aimais voir les lumières qui voyageaient la nuit dans le ciel. Nous étions des enfants grincheux, en très mauvaise santé. Nous dormions sur des lits souillés, grouillant de poux, et nous avions des abcès au cul. Nous portions tous des manteaux rayés découpés dans les rideaux d'une voisine châtelaine. Les boutons, nous les avions sucés comme des bonbons. Nous avalions de l'eau et du pain en grande quantité, parfois du riz, des boîtes de conserve et des pommes séchées. Personne ne connaissait notre prénom. Nous l'avions oublié dans le grand déménagement. Alors on s'appelait un jour Pif, un autre Glouglou, un autre Quick, le suivant Boum. Et quand un de nous était emporté par la chiasse, on chantait « Kéké est mort, Coco est mort, pauvre Kéké, pauvre Coco !» Nous chantions à tue-tête jusqu'à ce qu'un adulte vienne nous faire taire. Notre jeu préféré consistait à faire des plans de fuite. J'avais fabriqué un manteau de protection pour traverser la zone dangereuse. C'était un manteau d'ortie qui provoquait des furoncles purulents avec d'insupportables démangeaisons chez la personne qui essayerait de s'en emparer. Pour l'enfant qui le portait, le manteau vert était un puissant anti-terreur. Comment l'enfiler sans mal? Un caillou sous la langue, dire escalator. Je suis la seule enfant qui ait survécu à la marche de nuit dans les vignes. C'était l'hiver, le vent glacial qui s'est mis à souffler a arraché un à un les 11 manteaux d'ortie. Les enfants, épuisés, se sont couchés dans la caillasse. La boulangère m'a trouvé au bord du talus un petit sac de peau et d'os puant l'huile rance, enroulé dans une écharpe d'herbe séchée. J'ai traversé la ligne électrifiée dans un sac à pain à l'arrière d'un triporteur. J'ai eu de la chance. J'étais à l'abri de la faim et du froid, chez un couple de vieux boulangers. Le jour, on me cachait dans le four, et cela jusqu'à ce que le grand chambardement s'arrête et que les zones disparaissent. Il a fallu que j'aille à l'école. Les boulangers étaient soucieux pour mon avenir. Du coup, j'ai eu un tuteur et j'ai été envoyée dans un internat. C'est à ce moment que j'ai reçu un nom. Paula X, et une date de naissance, bien qu'aucune trace de ma parenté n'ait été retrouvée. À partir de ce moment, ma vie s'est organisée comme celle de tous les enfants de mon âge présumé. Aujourd'hui, je suis historienne. Voilà ce qu'évoque pour moi le thème des manteaux. Le dernier passage est tiré du chapitre 8. Aphrodite, qui est le personnage principal, croise Jonathan, avec lequel elle a préparé la matue dans un internat, et il décide de traverser la ville du sud-ouest au nord-est. Il traverse 5 arrondissements de la ville de Paris, et il décide d'utiliser les voyelles et la correspondance des voyelles avec les couleurs de Rimbaud pour inventer des couplets, pour à chaque fois qu'il passe d'un arrondissement à l'autre, relancer un peu leur imaginaire. C'est Jonathan qui commence. Aphrodite, tu es belle. Merci, mais s'il te plaît, arrête de failloter. J'avais pris mon courage à deux mains. C'est dit, c'est entendu. Tu es amoureuse? Pff, pas plus des garçons que des filles. C'est le croissant qui n'est pas formé dans ton cerveau. Oui, manque de cuisson. Elle est drôle, Moucha. Elle m'a fait écouter une panique dans un terrier de lapins. Le chien se déchaîne à l'entrée, les lapins détalent, on entend rouler les carottes et puis de la percussion. Les lapins tapent le sol à l'unisson avec leur arrière-train pour décharger le stress et faire fuir l'ennemi. Il paraît que le chien comprend et abandonne. Moucha et Olympe sont très fortes à l'échantillonneur. Elles proposent des amorces, des bites, quelque chose qui fait tourner le monde. Elles parviennent à monter un espace qui nous supporte tous. Alors, tu as apprécié Art Premium? Beaucoup? Tu chantes bien? C'est à la crèche que tu as appris? Oui. Maintenant, on pique par la rue Labatte. Remembering when we've been lucky, singing with mommy and fluffy dog. Je ne viens jamais dans le coin, ça sent les épices, les commerces pakistanais et beaucoup d'hommes qui discutent sur le trottoir et plus bas, beaucoup de filles noires au carrefour. Je ne suis pas convaincue par la voyelle I pour le rouge. Le rouge est une intensité, le I est une verticale. Oui, mais justement, ce n'est pas une analogie graphique. Prends intelligence, input, indice. C'est inflammable, c'est en mouvement. Et voilà, pour moi, les objets rouges sont immobiles. Le rouge est matière, surface et matériaux. Carton, plastique, peinture. C'est une couleur qui existe peu dans la nature, excepté la rose, la tulipe, la tomate. Cite-moi un objet en I. Attends, l'insuline, qui est une hormone, n'est pas rouge. La teinture d'iode, métalloïde volatile. Tiens, insecte, pas très rouge. Et instrument, c'est une famille. Il y a l'intestin qui a 30 pieds tout de même. Aide-moi! Il y a l'ivresse qui est une griserie et une perturbation. L'islam qui est une religion. L'imam un fonctionnaire. Le yon est invisible. L'ire est un état. L'image est un ensemble de points. L'iris est une passoire. L'irakien est une variété de pétrole. Iranien, voire persan. Il y a l'infrangible réalité, l'inaudible infrason, l'infrarouge et les infusoires microscopiques. Enfin, en I, on trouve des états, des verbes, des généralités. Aphrodite, tu peux te passer d'idées, d'intelligence, d'inimitable, d'indignation? Peux-tu penser un monde sans intensité, un état sans l'objectiver, un îlot sans idiot ni imbécile? Mais quel rapport avec rouge? Incendie, tiens, sinon retourne à rouge, voire honte, voire socialiste, voire vain. Et je m'écarte du I. Aphrodite, c'est ingagnable. Eh bien, quelle promenade! Tu vois, le ciel est dégagé maintenant. J'adore ces points de vue sur les voies, le bombé de la chaussée de bitume. Attention, le dernier pont au grillage céruléen va nous amener en U vert. Tu as vu l'affiche? Pour les femmes, le danger est d'abord le foyer. Il faut arrêter de rêver au sweet home, mesdames. Signorita, signor, au secours, sauvez-moi. Que voulez-vous qu'on fasse? Je ne veux plus dormir chez moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un centre pour dormir à la rue Pajol ? Il n'y a plus de place. Et quelle est l'alternative ? Il y a un hôtel à la rue du Nord pour 12 €. Je veux bien vous payer la chambre si vous nous racontez une histoire. Une histoire ? Oui, on vous accompagne à l'hôtel et vous nous racontez une histoire. D'accord. Il était une fois deux habiles voleurs qui se cachaient dans une forêt en Arcadie. Un djinn, enfermé dans une bouteille par un dieu jaloux, faisait partie de leur butin. Dans les arbres nichait une multitude d'oiseaux qui dévoraient tous les fruits de la contrée. Lorsque le bruit assourdissant des castagnettes de bronze d'Hercule avait forcé les nuées d'oiseaux prédateurs à quitter l'épaisse forêt, le bouchon du flacon avait sauté et le djinn s'était volatilisé. Le djinn, après des années de réclusion, désirait voyager dans un monde où sa peau de serpent sans écailles, sa peau olivâtre rehaussée d'or, passerait inaperçue. Car ses endroits de prédilection étaient Termes, Hammam, Thalasso et les salles d'eau, tous les lieux humides où les femmes prenaient des bains. Pour arriver à ses fins, le djinn avait décidé de plonger la terre dans la couleur verte et le ciel dans le noir. On ne distinguait plus un chien de l'arbre contre lequel il pissait, une ville de ses habitants, le désert de la mer. Les boissons étaient monochromes, enfin bref, l'uniformité. Les voleurs, bien qu'aimant l'obscurité, étaient déconcertés par ce vert qui annulait les contrastes, brouillait les contours et dénaturait la matière. Car comment distinguer une forme précieuse d'un ramage ? Ils erraient, abasourdis, lorsqu'ils voient soudain une poule qui picore. Les voleurs l'attrapent. « La poule, ça ne va pas la tête. Je suis la sorcière Kalia. Lâchez-moi immédiatement. Si vous m'assassinez, vous ne saurez jamais comment vous sortir de là. » Pose en Zab, dit Bazan, écoutons-la. Il faut d'abord trouver l'âne qui sent la pommade, leur dit Kalia. Quand vous l'aurez trouvé, ce qui peut prendre une année, voire plusieurs, vous tirerez sur sa queue. Il va chier de la poudrette blanche. Frottez-vous les yeux et la langue avec, et vous verrez que le monde retrouvera ses couleurs. Les voleurs, convaincus, remercièrent Kalia et se mirent en route. Je ne vais pas détailler les aventures et les méprises que leur quête occasionna. Tous les ânes sentaient le crottin, la terre battue, le vieux cuir chauffé. Ni dénombrer les coups de sabot, les ruades, les coups de bâton et de fouet des maîtres. Bazan et Anzab, surpris en train de renifler la croupe d'un âne, furent fouettés jusqu'au sang et jetés dans un cachot pour zoophilie. Enfin bref, ils endurèrent. Et dès qu'ils furent libres, ils reprirent la recherche. Avec raison, car un jour, ils aperçurent un âne qui attendait son maître au bord de la route, patient comme seul un âne peut l'être. Et celui-là embaumait la pommade. Dès qu'ils tirèrent sur la queue, il leva une patte arrière et il chia la poudrette blanche que Bazan recueillit dans son chapeau. Et merveille, la poudrette aussitôt léchée, voilà que leurs joues et les nuages se remettent à rosir et les couleurs se répandent aux quatre coins du monde. Les voleurs s'emparent de l'âne au cas où le ver reprendrait le dessus. Ils se remettent en route à la recherche du djinn pour lui proposer un pacte de paix. Ils cherchèrent longtemps, mais le djinn était introuvable. Il est probable que le contact avec les corps lascifs et nus des baigneuses ait désamorcé définitivement sa colère verte et qu'il se cache quelque part sous la protection des gardiennes de bain. Bravo ! Voilà pour la promesse tenue. On se quitte ici. C'est bien. Pensez à d'autres histoires pour la suite. Muy bien. Hasta luego, guapos. Buena suerte, niña. Buenas noches. En U vert, tout était vert, mais c'était l'hiver, il ne faut pas l'oublier. Tu as remarqué que U est dépourvu d'objets, excepté les volants, UFO et ULM? Mais il y a ustensiles. C'est vrai. Tiens, ils ont effacé le graffiti « À Genève comme à Paris, vive la casse et l'incendie ». Je garde utile et urbain, moi un et unique. Je dépose usine et utopie, oublions urticaire et ultraviolet. Finalement, qu'est-ce qui n'est pas vert? Le lait, le sang, le ciel. Aphrodite, je voudrais te revoir, je me sens bien avec toi. Moi aussi. Nous avons traversé la ville et personne n'a essayé de nous manger. Viens me chercher vendredi, même heure, à la cantine. Tri-li-li. Merci.
C'était Loretta Verna avec des extraits de « Mille traverses » enregistrés à la Bibliothèque de la Cité à Genève le 16 septembre 2008.